voici les titres du journal.
Vigilance et prudence, la Corse est en alerte orange. Déjà pas mal de pagailles, notamment dans les transports et dans le milieu scolaire. Nous ferons le point dans ce journal avec Maxime Beckmer. La transition écologique, une partie de la jeunesse s'empare de cette thématique. Nous le verrons avec une lycéenne ajaxienne qui sera l'invitée de la rédaction. La politique, les maires reçus hier par la commission violence de l'Assemblée pour préparer la session spéciale du mois de mars. Politique toujours, et comme chaque vendredi, on retrouvera le journal des municipales de Patrick Vinciguerre. Aujourd'hui, eh bien c'est aussi vendredi 13, bon ou mauvais présage. On a posé la question aux Ajaxiens dans la rue. Marie Ladine, aujourd'hui on part au Liban, retrouver un collectif d'artistes qui se bat aux côtés de la population dans la rue. Et enfin les sports, on parlera bien sûr de football, Ligue 2 et Nationale, mais également de futsal.
Ce journal vous est présenté par Alexandre Sanguinetti, bonjour.
Bonjour, la Corse vient donc de passer en alerte orange, alerte pluie, orage, inondation, vague, submersion, principalement pour la Corse du Sud, auquel s'ajoute une alerte au vent fort pour la Haute-Corse. On attend en effet jusqu'à 140-150 km/h de vent sur les crêtes, les sommets exposés, un phénomène météo qui entraîne déjà, Maxime Beckmer, de fortes perturbations.
Oui, des perturbations tout d'abord dans les transports, dans le maritime. Les compagnies ont dû avancer ou reporter la plupart de leurs traversées. Dès hier soir, le Marseille-Ajaccio par exemple a dû être annulé. D'autres liaisons prévues ce soir ou demain entre Corse et continent seront reportées ou bien anticipées. Du côté de l'aérien, tous les avions prévus ce matin ont pu décoller normalement, mais en prévision, la compagnie Air Corsica propose à tous ses passagers de modifier sans frais leur voyage dans le cas de report de vol. Perturbation également pour les événements festifs prévus ce week-end. La soirée d'ouverture du marché de Noël de Bastia est reportée à demain. D'autres marchés de Noël n'ouvriront pas leurs portes aujourd'hui, comme à Ajaccio ou à Borgo. Celui de Bonifacio est lui aussi reporté à la semaine prochaine. Et puis, autre conséquence, les fermetures anticipées des établissements scolaires. Le rectorat indique que les élèves de toute la Corse ont pu quitter les cours en cette fin de matinée. Les écoles, collèges et lycées qui restent toutefois ouverts pour permettre bien sûr aux élèves de rester en sécurité jusqu'à la prise en charge par leurs parents.
Et les autorités, Maxime, appellent cet après-midi, si possible évidemment, à rester chez soi, limiter ses déplacements, parce que c'est maintenant que les conditions météo vont se dégrader.
Et oui, Météo France indique que c'est à partir de ce midi que la situation se dégrade, à partir de ce midi que le vent va forcir, et cela va aller crescendo avec un pic attendu en début de soirée, début de nuit dans les régions les plus exposées, le Cap, l'extrême sud. On peut s'attendre à des rafales à 140-150 km/h. Une petite accalmie est prévue dans la nuit, puis à nouveau le vent fort devrait souffler demain pour une bonne partie de la journée. Et attention, si vous êtes en plaine orientale, ce sera la région la plus touchée par le phénomène de vent violent. En ce qui concerne la pluie, il n'est pas tombé grand-chose selon le constat des prévisionnistes de Météo France. Une vingtaine de millimètres de précipitations tout au plus dans l'intérieur de l'île. Ce sont surtout, vous l'avez compris, les vents violents auxquels il faudra faire attention durant ces prochaines heures.
Maxime Beckmer, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Maxime. En justice, 4 personnes ont été mises en examen hier pour association de malfaiteurs terroristes, fabrication non autorisée d'engins explosifs et destruction et tentative de destruction par un moyen dangereux. 3 de ces personnes ont été placées en détention provisoire. 3 autres ont été libérées sans poursuite. 3 enfin doivent encore être présentées aujourd'hui à un juge d'instruction parisien en vue d'une possible mise en examen. Je vous rappelle que lundi, 11 personnes au total avaient été arrêtées en Corse dans une information judiciaire ouverte par le parquet antiterroriste de Paris après une série d'attentats ou tentatives avant la visite du président Emmanuel Macron dans l'île. C'était au printemps.
RCFM, midi, midi et demi, l'info.
Quand la jeunesse corse s'empare de la thématique de la transition écologique, 110 élèves collégiens, lycéens ont participé ce jeudi au premier conseil académique relatif à la transition écologique. L'occasion pour ces derniers d'échanger avec des experts avant de pouvoir proposer, Patrick Ross, des projets, des actions en faveur du développement durable et de leur établissement respectif.
Des projets menés à petite échelle, mais dont les ambitions iront au-delà de l'enceinte de leur établissement scolaire. Des jeunes impliqués et qui entendent œuvrer pour la planète en tentant de sensibiliser, pour commencer, leurs propres camarades. Madeleine est élève de 4e au collège de Luchan.
Dans la classe, on va dire qu'il n'y a pas vraiment d'élèves qui sont réellement intéressés par le sujet. C'est pour ça qu'on va essayer de leur donner envie de participer, de faire quelque chose. Je pense que c'est surtout notre génération qui doit faire bouger les choses. La planète est dans un état critique. Nous sommes la génération du changement. Nous œuvrons pour un meilleur environnement.
Le changement, c'est maintenant une expression déjà entendue et qui, pour atteindre son objectif, doit tout simplement entrer dans une logique précise de formation. Michel Pifferini est inspecteur pédagogique régional.
Au-delà de la sensibilisation, on est dans une logique claire de formation. Il suffit de regarder un petit peu l'engagement des élèves au sein de tous les établissements. Il n'y a qu'à voir, en tout cas, la volonté de se projeter, la volonté de pouvoir construire des actions pour justement améliorer cette biodiversité, améliorer la transition écologique et aussi participer véritablement à un débat citoyen et participer à la société de demain par un engagement lycéen, un engagement qui les honore, mais un engagement qui les engage aussi.
Un engagement de tous les instants pour une jeunesse qui jouera un rôle prépondérant pour la protection de l'environnement. Et cela commence maintenant dans chaque établissement scolaire.
Un sujet sur lequel nous reviendrons dans quelques instants, dans cette édition un petit peu plus tard, avec l'invité de la rédaction, une jeune ajaxienne élue au Conseil national de la vie lycéenne. En politique, comme tous les vendredis, nous avons rendez-vous à présent avec le journal des municipales, les derniers échos de campagne, les déclarations de candidature. Aujourd'hui, on débute Patrick Winschiger à part la cité impériale.
RCFM. Le journal des municipales.
Ajaccio, une seule force manquait sur la ligne de départ, celle de gauche. Ce n'est plus le cas depuis hier. Étienne Bastelli, élu communiste d'opposition au conseil municipal, conduira une liste de quasi-unions, son nom la gauche ajaxienne, avec les socialistes, le mouvement de François Casasoprane, mais pas Insem Aman, qui est le front de gauche. Tout reste ouvert, surportant Étienne Bastelli.
Pour l'instant, il n'y aura pas toute la gauche. Nous avons essayé de réunir tout le monde. Pour des raisons X et Y, nous n'y avons pas réussi pour le moment. Je sais qu'il y a des personnalités actuellement qui étaient d'une autre mouvance, qui sont en train de se rassembler pour voir si elles peuvent venir nous rejoindre. Nous l'avons dit aujourd'hui, nous allons le répéter. Nous sommes encore une fois en phase de construction et tout reste ouvert, bien entendu.
Toujours à Ajaccio, la liste Corinne Front et Aya Chouincourt est emmenée par Jean-Marc Lanfranc qui a présenté cette semaine les principaux axes de son programme. Au final, comme à Bastia, il y aura à Ajaccio trois listes nationalistes. L'Union n'a pas été possible, explique Jean-Marc Lanfranc.
Pour la bonne et simple raison que ça a été le cas au territorial et ça s'est perpétué là. Pourtant, il y avait quand même un certain nombre de sujets qui auraient permis peut-être d'être unis ou rassemblés sur un certain nombre de points. Le seul qui semble avoir retenu l'adhésion de tout le monde, c'est cette lutte contre la mafialisation, encore heureux. Mais pour le reste, on ne peut pas dire qu'on ait eu véritablement de points d'union.
En Haute-Corse, plusieurs déclarations de candidature cette semaine. Lille Rousse, Angèle Bastiani, leader de l'opposition élu en 2015 sur la liste socialiste de Hyacinthe Mattei, sera cette fois tête de liste. Son projet, peut-on lire dans un communiqué, raviver l'âme de la ville. Elle fait valoir pour cela sa connaissance des rouages de Lille Rousse. Elle trouvera sur sa route le maire sortant Jean-Joseph Allegrini-Simonetti. Au sud de Bastia, à Luciane, Jean-Philippe Antolini, à la tête de la liste nationaliste Peluciane Peago, Corsica présente demain sa démarche à l'Orconor à San Martino in Lode. C'est la liste Un'altra scelta, un autre choix qui officialise son engagement. Un groupe de personnes opposées au maire sortant Jackie Padovani qui devrait lui annoncer sa candidature courant janvier. À Bastia enfin, Corinne Front elle lance officiellement sa candidature ce soir. La liste Bastia Inco est portée par Paul-Félix Benedetti, alors que la liste Corsica Libre à PNC, conduite par Eric Simone, y a tenu récemment un point presse pour réaffirmer son opposition au projet de la carbonite, nouvelle mouture ou pas. Ce sera sans doute l'un des enjeux majeurs de ces municipales bastiaises. Eric Simone y reconnaît que le port actuel pose des problèmes de pollution en centre-ville, mais il existe selon lui d'autres solutions.
Il faut résoudre le problème de la pollution, pas le déplacer de la place Saint-Nicolas à Loupine. Il y a des choses qui avancent très vite dans ces domaines-là. Nous savons que les solutions existent et on nous présente comme le nec plus ultra du modernisme, un projet sur le site de la carbonite qui, à notre avis, répond plutôt à des schémas du 19e siècle.
Julien Morgante est toujours à Bastia pour sa part présenter son projet en fin de semaine dernière, alors que Jean-Sébastien de Casalt organise une deuxième rencontre citoyenne demain du côté de la gare.
Toujours en politique avec les maires auditionnés par la commission violence de l'Assemblée de Corse hier, avec cette question en ligne de mire, les élus de proximité peuvent-ils résoudre la question des dérives mafieuses? Certainement pas, selon Josine Mattei-Fadzi, maire de Rennes et présidente de l'association des maires de Corse du Sud.
Il appartient au service de l'État de faire le boulot et voir s'il y a des gens qui contreviennent. Mais c'est pas à nous, les maires, de courir derrière les voyous. C'est pas notre métier. Moi, personnellement, je n'ai jamais subi de pression et jamais aucun collègue de Corse du Sud n'est venu se confier à moi qu'il subissait de pression, parce qu'autrement, j'aurais organisé au niveau de notre association, puisque le statut le prévoit, pour sa défense.
Que sont venus dire les édiles hier? Que peuvent-ils attendre de la session violence à venir à l'Assemblée? Réponse de Séverin Médor et maire de Linguit-7, représentant l'association des maires de Haute-Corse.
J'attends des prises de position fortes de l'Assemblée. Je pense que la position du président Bouquin de demander une commission d'enquête parlementaire était une excellente idée. J'espère qu'elle sera reprise in fine par l'Assemblée de Corse. Et je suis venu dire que moi, je pense qu'il y a une sacrée dérive mafieuse en Corse. Que si on se met d'accord sur une définition simple de la mafia, à savoir de bandes de criminels qui n'ont plus besoin d'expliquer qui elles sont, parce qu'elles ont une réserve de violence telle que les gens s'y plient avant même qu'on les menace, je pense que c'est un impact psychologique désastreux pour une société. Et que je pense que ce n'est pas du bout du cap à Bonifacio, mais dans certaines micro-régions de Corse, dans certains points d'impact, au fort intérêt spéculatif, c'est le cas.
Un témoignage maintenant, celui d'Éric Auger-Santone, il est le maire de Mirepoix, une petite commune d'un millier d'habitants en Occitanie, à une trentaine de kilomètres de Toulouse. Il était hier soir l'invité du Club de la Presse pour apporter son éclairage sur l'incinération, alors que la Corse croule sous les déchets. Sa commune possède en effet depuis 2001 un centre de valorisation thermique, un incinérateur quoi, qui selon lui a beaucoup d'avantages, une production d'énergie, des dizaines d'emplois créés et, dit-il, aucun risque pour la santé. Éric Auger-Santone.
On incinère 170 000 tonnes par an, qui correspond à peu près à un bassin de chalandise qui est le nord de l'agglomération toulousaine et tout le nord toulousain. 300 000 habitants, voilà, c'est assez comparable à la Corse. À côté de ça, on a bien évidemment pris en compte les problématiques de dioxine, de furane, de NOx, où on a des mesures qui sont faites régulièrement tous les mois. On a un contrôle à travers une commission locale d'information et de surveillance qui se réunit tous les mois en présence d'élus et en présence des industriels, de façon à pouvoir contrôler les taux de produits rejetés. On fait même des études épidémiologiques auprès des habitants, parce qu'on a même été jusqu'à faire des prises de sang, vous savez, pour contrôler le taux de dioxine. Et aujourd'hui, il faut le reconnaître, on n'a aucune problématique là-dessus.
Et puisqu'on parle de déchets, face au blocage du site d'enfouissement de Vigianet, le CIVADEC fait savoir aujourd'hui que les mesures d'urgence qui sont prises pour pallier cette fermeture auront un coût important, de l'ordre de 35 000 euros par jour de blocage, auxquels se rajouteront les coûts d'aménagement des sites d'entreposage des balles, prolongés jusqu'à la fin de l'année. Donc ce blocage coûterait plus de 3 millions d'euros aux contribuables insulaires, 10% de plus donc sur la facture annuelle. Si le blocage persistait pendant le mois de janvier, dit le CIVADEC, il faudrait rajouter 2,5 millions d'euros à la facture payée par les intercommunalités et leurs contribuables. 12h et un peu plus de 12 minutes sur RCFM. On revient, comme promis, dans cette édition sur ce sujet de la transition écologique, avec une implication relative de la jeunesse insulaire sur le sujet. En tout cas, l'implication, eh bien, elle est forte pour Barbara Pianelli-Balizogne, élève de terminale au lycée Laetitia d'Ajaccio. Elle est l'invitée de Patrick Rossi.
RCFM, l'invitée de la rédaction.
Bonjour Barbara Pianelli-Balizogne.
Bonjour.
Alors Barbara, vous êtes élève lycéenne et vous êtes partie prenante du Conseil national de la ville lycéenne. Vous avez une implication toute particulière et dans ce Conseil national, il y est évidemment question de l'avenir de la planète. Tout simplement, c'est un sujet d'actualité. C'est un sujet très sensible qui mobilise la jeunesse aujourd'hui, insulaire et plus.
Oui, effectivement. Alors, on sait que le ministère de l'Éducation, aujourd'hui, essaye vraiment de sensibiliser les élèves, que ce soit au collège ou au lycée, et bon, notamment lors de réunions comme celle-ci avec tous les éco-délégués des différents collèges et lycées de l'Académie, à cette question de la transition écologique, du développement durable, de la préservation de l'environnement, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est vraiment un des plus importants. Et donc, voilà, nous aussi, élèves engagés, au sein de nos établissements scolaires, nous nous mobilisons afin d'essayer de faire un petit peu, à notre échelle, changer les choses.
Alors avant de voir quel est votre travail et votre implication et participation au sein du Conseil national, il y a déjà une première étape qui se situe ici, en Corse, dans votre établissement scolaire et peut-être dans les établissements scolaires voisins, c'est celui de la sensibilisation. On pose souvent la question aux jeunes, est-ce que vous avez le sentiment, vous, que la jeunesse corse est sensibilisée à la problématique?
Écoutez, peut-être pas dans son intégralité, mais c'est quelque chose qui qui se travaille et qui est en plein essor en ce moment. On est, je trouve, particulièrement sensibilisés en ce moment par nos professeurs et tout le corps enseignant en général. C'est vrai qu'il y a quand même encore quelques élèves qui restent à l'écart de cela, qui sont moins concernés. Moi, je sais que je le vois, étant engagée, je me sens très concernée par ça, mais ce n'est pas le cas de tout le monde et c'est dommage et il faudrait que ça le soit.
Il faudra y venir, quoi qu'il en soit, on ne pourra pas y échapper.
Non, ça c'est certain. D'autant plus que voilà, c'est un sujet qui est vraiment très très important et qui, au final, même si tout le monde ne se sent pas concerné, qui concerne tout le monde. Et il faudra qu'un jour ou l'autre, tout le monde se sente concerné, surtout que nous sommes jeunes et nous sommes l'avenir.
Alors, à travers cette journée à laquelle vous avez participé ce jeudi à Corté, il y a été question donc de transition écologique. On a parlé beaucoup de projets. On est en train de bâtir quelque chose de fort, de costaud, pour justement toucher le plus de monde possible.
Alors, on a assisté à plusieurs interventions. Ça a pu aller des personnes de l'éducation nationale qui sont là pour nous aider et pour nous sensibiliser à cette démarche, mais aussi on a eu des intervenants extérieurs comme une dame qui fait partie du CIVADEC, donc qui est venue un peu nous parler de son travail.
De déchets, de gaspillage alimentaire et autres.
Exactement, surtout que dans nos établissements scolaires, c'est quelque chose qui nous concerne beaucoup avec les cantines. On a parlé aussi de l'énergie, des chauffages parfois qui sont allumés et qui sont pas, la régulation n'est pas bien faite, donc nous sommes obligés d'ouvrir les fenêtres. C'est plein de petites choses qui se passe dans nos établissements scolaires et qu'il faudrait à tout prix stopper pour pouvoir entrer dans une démarche vraiment éco-citoyenne.
Alors cette démarche éco-citoyenne, vous allez la porter à travers différents projets, en tout cas dans les différents établissements, et tout ça débouchera sur une possible labellisation, ça veut dire un projet concrétisé.
Effectivement, on a déjà dans l'Académie de Corse des établissements qui ont le label E3D. C'est un peu le Saint Graal dans cette démarche et c'est ce à quoi on tend pour, et on espère, pour tous les établissements de l'académie. Moi, notamment, je sais que moi, je suis au lycée Laetitia Bonaparte à Ajaccio. Nous ne bénéficions pas encore de ce label 3D, mais nous aimerions beaucoup et nous sommes en train de, avec notamment un comité de pilotage 3D, d'essayer de mettre en place des actions pour pouvoir obtenir ce label 3D.
Alors, quel type d'action, par exemple ?
Il y a notamment la cantine. Les déchets, on a un gros travail qui est fait là-dessus. On essaye aussi d'instaurer le tri sélectif, parce que c'est vrai que dans notre lycée, nous avons une cafétéria qui produit beaucoup de déchets, et aucun d'entre eux, pour l'instant, ne sont encore recyclés.
Barbara, un mot pour conclure sur votre participation au Conseil national de la vie lycéenne. Quelle est votre mission ? Quelle est la régularité des réunions, du travail ? Et quel est votre travail précisément au sein de ce conseil ?
Alors, avant d'être au Conseil national de la vie lycéenne, je fais partie du Conseil académique de vie des lycéens. Donc, c'est le conseil qui réunit tous les représentants des élèves de chaque établissement de Corse. Et moi, donc, j'ai été élue parmi ce Conseil académique de vie des lycéens. Donc, je suis en charge de la représentation de tous les élèves de l'Académie de Corse au niveau national, ce qui fait qu'on va essayer de porter les projets de l'Académie de Corse au niveau national, et peut-être après de les généraliser à d'autres académies, pourquoi pas. Et donc nous, notre travail, c'est vraiment la représentation et porter au plus haut la voix de la jeunesse corse.
Merci Barbara, et puis on vous souhaite bon courage, bonne continuation et beaucoup d'implication évidemment pour convaincre cette jeunesse insulaire face à la problématique de la planète en danger. Merci encore.
Merci beaucoup.
RCFM, toute l'info.
Et toute l'info, c'est aussi le fameux vendredi 13. Vous y avez forcément pensé aujourd'hui, à un moment donné ou à un autre, redouté par certains, attendu par les autres. On est tous évidemment plus ou moins sensibles à cette superstition, positive ou négative, autour du vendredi 13. Est-elle toujours ancrée dans notre société, notamment eh bien pour ceux qui jouent, qui tentent leur chance au jeu, grattage, loto, paris, hippique. Pour le vérifier, Lauriane Avar est allée à la rencontre des Ajacciens.
Ni chaud ni froid.
Ni chaud ni froid.
J'y crois pas. Il n'y a pas de chanceux, ni de guigneux. C'est un jour comme un autre, en fait. Je n'attends pas ce jour pour jouer. Voilà, pour moi, c'est un jour comme un autre.
Le vendredi 13, oui, hein, on est superstitieux. Mais on va penser plus bonne chance. Hein.
Oui, oui, bonne chance. C'est pour ça qu'on va jouer au loto.
On jouera plus que les autres jours.
Vous avez déjà gagné un vendredi 13 ou pas ?
Non, je crois pas. Sinon, on ne serait pas là, hein.
Ouais. Je vais tenter aussi, hein, parce que bon, c'est 13 millions plus 37 millions, ça fait 50 millions, donc pourquoi pas en toucher un des deux. Hein.
Vous feriez quoi avec tout cet argent ?
J'arrête de travailler.
Et à la place, vous faites quoi ?
Rentier.
Une belle journée, moi, le 13, je suis née un 13, c'était un lundi, bon, 13, c'est très très bien.
Mais là, c'est vendredi 13, attention.
Bah oui, mais c'est pas grave, ça doit porter bonheur.
Ça doit porter bonheur, donc vous y croyez?
Pas du tout. Mais il n'y a pas de raison de se mettre de mauvaise humeur, parce que c'est vendredi 13 et qu'il pourrait nous arriver des mauvaises choses, après tout.
Ouais, vous avez raison, hein. Restons positifs, en fait. Hein.
Voilà.
Voilà, restons positifs donc pour ce vendredi 13, 12h20 sur RCFM. Marie Ladine, aujourd'hui, nous emmène à l'autre bout de la Méditerranée, à son extrême-orient, je dirais, au Liban, à Beyrouth précisément, où un collectif d'artistes a investi la place des martyrs. On en parle tout de suite dans la chronique réalisée aujourd'hui par Pierre-Louis Alessandri.
RCFM en Méditerranée.
Le Liban, depuis des semaines, est en ébullition contestataire au point d'avoir congédié son premier ministre. La rue veut le changement des politiques et dénonce la corruption. Dans cette ambiance révolutionnaire, un collectif d'artistes qui s'intitule Sleeping with the Enemy, dormir avec l'ennemi, a décidé d'investir l'œuf, un bâtiment de forme ovoïde, désaffecté, situé place des Martyrs à Beyrouth, qui était destiné à devenir un centre commercial et qui accueille désormais des expositions. Ce bâtiment, devenu le symbole de la résistance artistique, le collectif veut en faire le lieu de la découverte de la constitution libanaise que les Libanais eux-mêmes ne connaissent pas et depuis le 17 octobre, il est l'objet de toutes les curiosités. Mettre le texte fondamental du Liban sous le regard de tous dans une forme artistique afin que chacun s'en saisisse et pouvoir aussi à partir de là affiner la contestation populaire. Une initiative originale d'art social qui fait que après les expositions dans l'œuf de Beyrouth, c'est l'œuf qui s'investit dans la constitution libanaise. Nanette Ziadé de la radio libanaise a recueilli les explications d'un des protagonistes de cette exposition constitutionnelle, Fadi Chama.
L'idée, c'est de prendre l'œuf ou bien l'aigle et que ça devienne un endroit pour la constitution. Donc tu rentres dedans et tu n'as que la constitution.
Alors effectivement, cette constitution qui est le pilier de cette république est souvent très méconnue, et surtout des jeunes.
Absolument, et quand tu la lis, quand tu la lis, tu vois qu'on est dans un pays très très moderne, il y a tout ce qu'on demande.
Il suffit juste d'appliquer les lois, en fait.
Absolument.
Les lois sont toutes présentes, mais il suffit de les appliquer.
Oui.
Alors vous avez choisi une voie connue pour parler de cette constitution.
Oui, on a choisi la voie de Darin Ajdondi, qui est une actrice, et on l'a déjà, donc on cherche maintenant à voir comment il faut l'appliquer du point de vue technique, son et tout. Nous sommes peut-être plus dans l'acte social. On considère que l'art a un rôle social et il doit le jouer. L'art ne doit pas être élitiste, peut-être s'il l'est quelquefois, mais son rôle primordial, c'est vraiment comment on peut travailler ensemble pour le même but.
Et si on faisait la même chose en France pour le projet sur les retraites ?
RCFM, le sport.
Et on ouvre donc notre page sportive du vendredi avec le football et l'avant-dernier d'ailleurs week-end de football de l'année avant la trêve des confiseurs. C'est donc pour ce soir et demain, ce soir 20h avec la 16e journée du championnat national pour le GFCA et Bastia Borg. Demain avec l'ACA qui a Timizzolo attend de pied ferme le Racing Club de Lens pour ce qui constitue le match au sommet de la 18e journée de Ligue 2. Un programme alléchant passé en revue par Jean Brunette.
On va respecter le calendrier et les horaires pour cette présentation, car s'il est évident que le gros morceau de ce week-end, c'est pour demain à Timizzolo, la pression va se ressentir dès ce soir en championnat de national pour le Gaz et Bastia Borgo. La mauvaise pression, malheureusement, celle liée au match, le couteau sous la gorge, comme l'on dit, les matchs de survie. Et le Gaz, plus que Bastia Borgo, y est engagé dans cette survie-là, lui qui au mois de mai encore était en Ligue 2 et qui se retrouve aujourd'hui à lutter pour sauver sa place en national. Le Gazélec est aujourd'hui en position de premier relégable. Mais le Gaz n'est pas mort et le hasard du calendrier lui offre la possibilité de jouer ses deux derniers matchs à Medzaville et contre deux de ses concurrents directs. Un cadeau de Noël, même si la Fédé mère fouettard pour le Gazélec, a confirmé les sanctions sur le stade de Medzaville. Arnaud Baligeon, gardien d'expérience de 36 ans, arrivé en juillet, en a marre de manger du pain noir.
C'est sûr que ça sera à huis clos, donc c'est un peu dommage, mais voilà, c'est deux échéances importantes. On n'a pas été épargné par les blessures, les suspensions, les décisions un peu difficiles des commissions de discipline et ça a été, on a dû faire le dos rond, on est dans une situation délicate maintenant, on essaie de garder le cap, il faut de toute façon, mais on a vraiment mangé notre pain noir. Maintenant, Faut être positif, faut regarder de l'avant et puis surtout regarder ce qui se présente tout de suite, et les deux matchs à domicile seront importants. Alors si on peut faire un carton plein, ça serait magnifique. On s'est préparé pour et on va défendre charmant de notre point.
Du côté de Bastia Borgo, ça va un peu mieux parce que les Bourguignons ont 4 points de plus au classement, parce que la Coupe de France leur sourit et parce que pour la première fois, l'effectif sera au grand complet pour ce déplacement à Villefranche en Rhône-Alpes. Mais au-delà de ce match, l'autre élément à prendre en considération pour l'entraîneur de Borgo, c'est la Coupe de France et l'AS Saint-Étienne de Cazeret et Boudebouze qui débarquent le 5 janvier. Mais avant que les projecteurs de Foriani n'éclairent de ses belles lumières le FCBB, Jean-André Ottaviani veut un bleu de chauffe ce soir et un travail de l'ombre qui rapporte des points.
Joueur amateur qui va jouer contre Saint-Étienne, c'est sûr qu'il va y penser, mais il ne faut pas y penser maintenant parce qu'il y a des objectifs, il y a des priorités de championnat, donc il ne faut pas y penser parce qu'il va y avoir le championnat. Et après, la préparation du match, pour ne pas être ridicule et pour ne pas passer à travers, il va pas falloir le jouer avant. Donc dans les deux cas, il vaut mieux se concentrer sur son travail. On aimerait bien prendre ces 4 points avant la trêve, c'est-à-dire faire un nul à Villefranche et battre Laval. Ce serait bien, cette fois-ci, si on faisait un résultat à Villefranche, de confirmer contre Laval.
Vendredi noir ou vendredi rose, pour Bastia Borgo, il faudra aussi attendre 22h ce soir pour répondre à cette question du jour. Une question que l'ACA en Ligue 2 et son adversaire, le Racing Club de Lens, ne se pose pas, car ce match a été décalé à demain après-midi 15h. L'ACA, troisième du classement, invité surprise du haut de tableau contre Lens, second et favori déclaré pour l'accession. Lens, l'autre équipe corse de cette Ligue 2, avec ses deux gardiens bastiais, Jean-Louis Lega et Thomas Vincenzini, et le bastio ajaxien Yannick Cahuzac. Un Yannick Cahuzac qui estime beaucoup cette équipe de l'ACA.
On sait que ça sera un sacré match, mais comme je vous dis, tous les matchs ils sont compliqués. Je pense que c'est une équipe très, très cohérente, très compacte, qui a une vraie philosophie de jeu. C'est un vrai collectif. Enfin, je les ai observés 2 ou 3 fois, je trouve que c'est vraiment cohérent ce qu'ils font. Donc je pense qu'il faudra compter sur eux jusqu'à la fin de saison. Ça sera un match difficile, mais on a aussi des armes à faire valoir et j'espère qu'on arrivera à les montrer.
Affiche sportive sur le papier et derby indirect donc avec ses insulaires sur une pelouse retapée ces derniers jours de Timizzolo. Ça vaudra le coup d'y être. Olivier Pantaloni, lui, à la tête d'une équipe ACéiste qui ne craint plus personne, ne se dit pas plus impressionné que cela par cette équipe de Lens.
C'est pas une équipe qui m'impressionne outre mesure. J'ai regardé plusieurs fois jouer Lens cette année. Alors oui, ça dégage une certaine force collective, mais sur les matchs, ils sont pas ultra dominateurs. Hein. Ils subissent quand même quelques occasions de but et puis ils ont gagné des matchs. Alors ce championnat est difficile, hein. Mais je pensais qu'avec l'effectif qui est le leur, ils auraient beaucoup plus de facilité et c'est pas trop le cas. Nous, on va jouer le match très tranquillement, très sereinement, parce qu'on n'a aucune pression sur nos épaules par rapport à ce résultat. Je pense que s'il y avait du monde, ça nous aiderait à trouver encore plus de force pour aller chercher une victoire. Et juste avant la trêve et dernier match à domicile de la phase aller, ça serait bien de terminer sur une bonne note.
AC à Lens, affiche de prestige à suivre bien évidemment en direct et en intégralité demain après-midi 15h. Ce sera sous les yeux et la voix de Stentor de Philippe Perrault.
Et on reste avec vous, Jean Prenet, pour parler de futsal avec la préparation d'un derby bastiais qui devrait remplir les gradins ce week-end. Enfin, on verra avec la météo. Un derby entre l'USG Furiani et le Bastia Aglo Futsal.
Un derby de division 2, Bastia entre les rouges et jaunes Furianink et les Turchini de l'Aglo. Furiani ne pouvait pas mieux préparer ce derby en gagnant son premier match de championnat le week-end dernier, 6-4 face à Dijon. Il était temps pour le club du président Vecchioli qui passe devant cet adversaire et abandonne la dernière place. Première victoire qui regonfle le moral des Furianais qui leur donne un espoir plus fort d'enchaîner avec une deuxième victoire. Derby ou pas, souligne Raphaël Legrand, l'un des capitaines.
C'est un match important, tout le monde l'attend ce match depuis un moment. Dans notre position là, le résultat passe avant le derby, même si dans notre tête le derby sera toujours présent. Il y a toujours cette concurrence, hein, sur les réseaux, même dans Bastia quand ça parle. Mais on sait ce qu'on vaut, C'est ce que vaut ce match aussi, un peu suprématie, surtout qu'avant les fêtes, ça pourrait nous faire un beau petit cadeau.
Si Fourian est 9e au classement, Bastia Aglo de son côté est un peu mieux classé, 6e. Un club qui commence à se rétablir après sa relégation de l'an dernier. Oubliez l'élite aujourd'hui, oubliez les soucis, place à la stabilisation du club avant de repenser à une éventuelle accession. Quant à la notion de derby, Juliette Battestine est la nouvelle présidente de Bastia Aglo. On fait son affaire.
L'équipe dirigeante est en place depuis 5 mois. Toute l'équipe dirigeante est très bien avec l'équipe dirigeante de l'USJ. Pour nous, il n'y a aucun souci. Aujourd'hui, on a à cœur de reconstruire Bastia Aglo Futsal. Nous, Fouriani, c'est d'abord un club corse. Et pour moi, c'est très important. J'espère qu'on se maintiendra très vite et qu'eux aussi se maintiendront aussi. Les querelles qui aient pu avoir par le passé ne nous intéresse pas.
Pas de favori à proprement parler dans ce derby avec deux équipes assez proches et pas davantage de terrain non plus. Les deux équipes jouent alternativement dans la même salle du complexe sportif de Borgo, là où on les retrouvera toutes les deux face à face. Cette fois-ci, ce sera dimanche à 16h.
Et à midi et demi, le rappel des principaux titres de l'actualité avec surtout cette alerte météo, vigilance orange depuis midi pour les deux départements insulaires. Des rafales de vent notamment attendues jusqu'à 130 km/h à Porto Vecchio, 150 km/h dans le Cap Corse ou l'extrême sud. Une alerte qui se prolongera jusqu'à demain 15h. Une alerte qui a conduit bien sûr au report d'événements. L'ouverture du marché Noël de Bastia a été décalée. Le marché Noël d'Ajaccio sera fermé, ainsi que celui de Borgo, celui de Bonifacio également. Conséquence dans les écoles aussi. En raison de ce phénomène météo, donc les départs des transports scolaires pour les premiers et second degrés ont été avancés à 13h pour la Corse du Sud, 14h pour la Haute-Corse. Pour les élèves internes, sachez-le, les transports sont maintenus aux horaires habituel. Sachez également que les établissements scolaires resteront évidemment ouverts pour permettre aux élèves de rester en sécurité jusqu'à leur prise en charge par leurs parents. Et puis dans le transport également, trafic maritime en partance ou à destination de la Corse perturbée. Les compagnies maritimes ont reporté ou avancé pas mal de leurs traversées. La Corse Egaline a annoncé annuler liaison Marseille-Ajaccio, reportée à demain, une traversée entre également bien Ajaccio et Marseille. Des navires également à l'île Rousse, à Bastia, vers Toulouse, vers le continent, en tout cas, sont tous décalés. Du côté de l'aérien, Air Corsica propose également à ses clients de modifier leur voyage sans frais en cas d'un report de vol. Sachez toutefois que ce matin, en tout cas, tous les avions prévus ont décollé, même avec du retard. 12h et presque 32 minutes sur RCFM.